Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous au fil de la prochaine heure, comme c'est notre habitude. Mais cette semaine, on change un peu l'habitude parce qu'on ne parlera pas d'un album, mais plutôt d'un ensemble d'albums et plutôt d'une histoire très, très large. Alors, de temps en temps, mais vous le savez, on tombe sur un ouvrage dont on se dit, ben, faut prendre le temps d'en parler, il faut prendre le temps d'en jaser. Et c'est le cas avec un ouvrage qui est arrivé tout récemment, en fait, qui est chez moi, mais qui n'est pas encore arrivé chez les libraires. On en parle avant la sortie cette fois-ci, mais vous allez pouvoir vous le procurer sous peu. Donc, l'ouvrage dont il va être question tout au long de l'émission, parce qu'on garde notre invité vraiment pour l'heure au complet. Alors, il s'agit de Michel Viau et de BDQ, l'histoire de la bande dessinée au Québec. Donc, le tome 1 des Pionniers de la Bulle. On va parler de la bande dessinée québécoise, de ses origines jusqu'à 1968. C'est un ouvrage d'à peu près 400 pages, extrêmement fouillé, qui est arrivé du côté ou qui va arriver du côté de Station T. Michel Viau, bonjour.
Bonjour, bonjour, Raymond.
Alors, les auditeurs réguliers de La Vie en BD vont se dire, bien, ce sujet-là, il me semble que je l'ai déjà vu passer, c'était en 2014, ça fait déjà 7 ans, donc c'était aux éditions Mémoire, donc il y avait une première version de ce livre-là que tu avais offert, et ici, avec Station T, tu reviens avec une seconde édition, et là, je cite l'acrostiche, une édition revue, complétée et augmentée.
Oui, et très augmenté. Si je peux dire, la première version de cet ouvrage-là, en 2014, le BDQ paru chez Mémoire 9, était en fait un assemblage des textes que j'avais écrits pour le fanzine mensuel. Donc, on avait rassemblé et qu'on avait publié sous forme de livre. Et le livre était épuisé, donc je me suis dit, tiens, bon, ben, je vais le réviser pour en faire une nouvelle édition. Et puis finalement, ben, j'ai rajouté beaucoup de choses. J'ai rajouté. J'ai pris plus de temps. Le premier avait été fait assez rapidement. Et comme je dis, c'était un assemblage de textes qui existait déjà. Et là, j'ai pris vraiment le temps de faire le tour de l'histoire. J'ai tout mis ce que je savais à peu près, ce que j'ai découvert. J'ai découvert beaucoup d'autres choses en fouillant dans les archives de la BANQ. Donc, j'ai rajouté des choses. Et le manuscrit original, qui faisait environ 350 pages, j'ai trouvé à en faire 550 au final. Et quand l'éditeur, Station T, a commencé la mise en page, il me dit, écoute, ça va faire un livre de 600 pages, puis on n'a pas encore mis le visuel dedans. Qu'est-ce que tu penserais qu'on le coupe en deux? Donc, le premier tome, la première édition, finalement, c'était l'histoire de la bande dessinée au Québec, des origines jusqu'à 1979. Et il y avait deux parties qui étaient des origines à 1968 et ensuite de 68 à 79, ce que moi j'appelle le printemps de la bande dessinée québécoise. Donc là, on a décidé de le scinder en deux. Donc, c'est la première partie seulement, donc des origines jusqu'à 1968, ce que j'appelle les pionniers de la bulle, parce que c'est vraiment là, les premiers auteurs qui se sont lancés en bande dessinée au Québec. Et la deuxième partie va faire l'objet d'un deuxième tome qui devrait paraître au printemps prochain et qui devrait faire au moins 400 pages lui aussi, parce qu'il y a eu beaucoup d'ajouts là, dans les deux cas. Donc, c'est une réédition très, très, très augmentée.
En fait, presque, en fait, je veux dire, un regard complet, un travail absolument, en fait, massif, et j'aurais envie de dire magistral aussi, d'ailleurs, parce que vraiment, ça me semble être un outil nécessaire, et j'ai l'impression que de faire l'inventaire, en fait, de faire le survol de presque tout ce qui s'est fait en BD au Québec, va offrir après ça une pierre d'assise à l'étude sur la bande dessinée, entre autres éléments, donc de pouvoir contextualiser les œuvres dans un ensemble de productions, de pouvoir savoir, quand on parle du contexte BD québécois, c'est quoi exactement? Ça a une grande valeur, là, ça.
Oui. Ça, j'ai pas voulu... le but de ce livre-là était justement de dire qu'est-ce qui avait existé, qu'est-ce qui a été fait. Je suis pas rentré là, dans l'analyse socio-historique vraiment. Parfois, il y a quelques éléments, mais ça, je laisse ça à d'autres chercheurs qui vont être plus ferrés en la matière. Alors donc, je me suis contenté beaucoup de raconter l'histoire, de dire qu'est-ce qu'il y a eu dans l'ordre chronologique. Il y a différentes étapes, époque de la bande dessinée. Donc, j'ai essayé donc, de présenter un portrait, un panorama. C'est une carte de ce qui a existé. Et ça, c'est un outil pour prendre des éléments et aller plus loin. Moi, je vois des pistes là-dedans de choses qui seraient intéressantes à développer. En tout cas, fait que donc, c'est un outil de base. Ça en prenait un. Il n'y en avait pas d'ouvrage qui était très complet. Il y avait souvent des périodes qui étaient laissées inexplorées, qui étaient laissées dans l'ombre. Alors, j'essayais de passer à travers toutes les époques, toutes les années, toutes les périodes. Et ça fait 20 ans que je travaille sur ça, dans le fond. J'avais commencé en 80...
Je pense que c'est un premier autour de l'an 2000. Je pense qu'il y avait une première publication de BDQ.
Il y avait eu un répertoire des publications de bande dessinée qui est apparu en 99, sur lequel je travaillais depuis 1996. Mais pour répertorier, évidemment, les albums, ben, en même temps, ben, j'avais vu ce qui paraissait dans les journaux qui n'a pas été en album, tout ça. Donc, j'avais commencé à accumuler de l'information à partir de ce moment-là. Fait que donc, ça fait depuis 96, en fait, depuis 25 ans que je travaille là-dessus, que j'accumule des connaissances, de l'information sur l'histoire de la bande dessinée. C'est des petites pièces de casse-tête que graduellement j'ai mis ensemble, tel auteur qui était à telle place, etc. Et c'est ce que je présente là, avec ce livre-là. C'est la somme de ce que j'ai ramassé depuis tout ce temps-là. Comme je dis, c'est un peu comme mon testament. J'ai tout mis ce que je savais en espérant que ça soit utile. Et je pense.
Ben, en fait, je suis persuadé que ça va l'être, Michel, utile. Et ne serait-ce déjà dans un premier temps de voir et de comprendre qu'il y a une histoire et qu'il y a une histoire longue, en fait, pour la bande dessinée québécoise. Mm-hmm. Tu l'as fait commencer en 1792, on reviendra un peu dans le détail, mais il y a eu une production qui a quand même été soutenue, dans le fond, pendant toutes ces années-là, et surtout dans les grands âgeurs de la presse et autres.
Tout le 20e siècle, il y en a eu tout le temps, tout le long du 20e siècle. Et c'est ce que je me souviens quand j'avais sorti le répertoire en 99, ce qui avait surpris tout le monde, c'était de voir qu'il y avait eu autant de bandes dessinées publiées au Québec. Les gens s'imaginaient que la bande dessinée au Québec avait commencé avec Crow, pratiquement. Et qu'avant ça, il y avait quelques fanzines des années 70, mais non, il y en a eu. Depuis, là, les premiers albums sont parus au début du siècle, des albums de caricature, de dessin, d'humour et de bandes dessinées en images, en histoire en images, je veux dire. Et donc, ça avait surpris beaucoup de gens de voir la production. Et là, avec ce livre-là, c'est vraiment pas juste les publications, mais c'est vraiment toute l'histoire de la bande dessinée, donc ce qui est paru dans les journaux et des fois aussi des réactions qu'il y a eu à ces publications-là, ou aussi ce que les gens, les auteurs ont fait, parce qu'il y a eu des activités en dehors de la bande dessinée de certains auteurs. Ça fait que donc, j'essaie d'offrir le portrait le plus vaste et le plus large possible.
Oui, puis un portrait qui nous amène à voir et à saisir à quel point, dans certaines périodes, la BD était ancrée, était vraiment à la page avec les réalités sociales de l'époque, que ce soit au début des années 1900, que ce soit à l'époque de Duplessis, malheureusement, parce que c'était porteur d'un certain obscurantisme aussi, mais bon. Mais aussi, d'autres périodes, elle était déconnectée de ces réalités-là, comme quand on parle justement de la période des débuts de la Révolution tranquille jusqu'à 68, où il semblait avoir certaines déconnexions, alors qu'en parallèle, je mentionnais les années 1900, et ça m'a frappé quand j'ai lu BDQ, où tu nous dis, ben regardez, les thématiques qui étaient abordées dans les BD, qui étaient présentes dans les quotidiens, c'est des réalités urbaines, c'est des réalités qui reflétaient ce que les gens vivaient pour vrai, à une époque où le roman, lui, était encore complètement pris dans le terroir et dans un regard un peu vers le passé, d'une certaine façon.
C'était l'idéologie dominante de l'époque, c'était l'idéologie qui était véhiculée par le clergé, puis l'élite clérico-nationaliste qui disait que le Canadien français était fait pour être un cultivateur, pour vivre sur la terre. C'est une façon pour l'Église peut-être de contrôler un peu mieux la population. Hein. Quand les gens vivent isolés sur leur terre, c'est plus facile de leur dire quoi faire, quoi penser que quand ils sont rassemblés en ville et qu'ils peuvent échanger des idées entre eux. Mais donc, pour la mentalité de l'époque, pour la mentalité dominante, la philosophie dominante, l'idéologie, la ville était le mal. Et Et c'était aussi l'époque, le début du 20e siècle, c'était l'époque de l'urbanisation. La population de Montréal a triplé de 40 ans, là, de 1860 à 1901. La population de Montréal a triplé, des autres villes aussi. Donc, il y avait beaucoup de gens qui quittaient la terre pour venir s'installer en ville, pour travailler dans des industries. Et donc, les bandes dessinées de l'époque reflétaient ça. Dans les séries qui étaient les plus populaires, il y avait bien sûr les aventures de Timothée, qui était un héros citadin, mais il y avait aussi la famille Citrouillard, qui était une famille de paysans qui quittait sa campagne pour venir s'établir à Montréal. Et il y avait aussi le père La Débauche dans la presse, par Joseph Charlebois, pas tout de suite par Albéric Bourgeois, mais par Joseph Charlebois, qui présentait les aventures d'un bûcheron, le père La Débauche, qui quittait les chantiers après 30 ans passés dans le bois et qui arrivait à Montréal. Fait que, donc, on avait un reflet de la société, de ce que vivaient les gens de l'époque, c'est-à-dire que les gens quittaient leur campagne pour venir s'installer en ville. Et là, on avait deux personnages, les Citrouillards, La Débauche, qui arrivaient eux aussi en ville et qui découvraient la ville. Et toute la technologie et tout ça auquel ils n'étaient pas habitués. Donc, ça reflétait ce que vivait là, la réalité vécue par beaucoup de nos compatriotes de l'époque.
Et il faudra attendre pour que le roman s'intéresse à son tour à ces thématiques-là. Je pense que c'est 1945 avec Bonheur d'occasion de Gabriel Leroy. Alors que 40 ans avant, la bande dessinée parlait déjà de ça.
Oui, on parlait de la ville, on parlait de tramway, on parlait du trafic, on parlait des magasins, de toute la modernité, les téléphones, l'électricité, l'éclairage et tout ça. Donc, tout ça par Timothée, qui est un dandy, un séducteur, qui avait des activités en ville, et par les Citrouillards, par La Débauche. Plus tard, pas beaucoup plus tard, l'année d'après, il y a eu Zidore, qui était un vagabond qui arrivait à Montréal aussi. On découvrait la ville. Ça permettait, d'une certaine façon, aux gens qui arrivaient de se reconnaître dans ces personnages-là. Mais aussi, ces bandes dessinées-là étaient extrêmement populaires, mais déplaisaient à beaucoup de gens aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en faisant la recherche pour cette nouvelle édition-là. Ce que je n'avais pas avant, c'est à quel point il y a eu une campagne virulente, très, très violente, contre les bandes dessinées qui paraissaient dans La Patrie et La Presse. Je me suis d'ailleurs souvent demandé pourquoi il y a juste La Patrie et La Presse qui ont publié des bandes dessinées, si c'était aussi populaire. Il n'y en avait dans aucun autre journal. Je veux dire, j'ai dû manquer quelque chose. Il y en a peut-être, puis je ne les ai jamais trouvés. Mais non, il n'y en a pas eu. Et même que à peu près tous les journaux de la province s'opposaient aux bandes dessinées qui étaient décrites comme des barbouillages multicolores, des gribouillis, de la caricature infecte. On allait même jusqu'à les qualifier dans certains journaux de caricatures antipatriotiques. Oh oui, parce qu'on se moquait du les gens ne voyaient pas le second degré. Ils se moquent des paysans canadiens-français. Les paysans méritent mieux que ça, méritent notre respect, parce que c'était l'image que l'idéologie dominante là, véhiculait, qu'on devait être des cultivateurs, rester sur nos terres. Et donc, on se moquait, les Citrouillards se moquaient c'était une insulte aux cultivateurs québécois, c'était une honte. Et il est même arrivé qu'il y a eu un auto-da-fé. On a brûlé des journaux. C'était à Lévis, après la messe, le curé avait fait un sermon très patriotique et en sortant, les fidèles avaient acheté La Presse et La Patrie et avaient brûlé les journaux, là, parce que c'était des journaux infâmes.
Et éventuellement, il y a eu un retour de balancier où là, c'est La Presse catholique qui, un peu après la guerre, avec l'ère du Duplessis, entre autres, qui ont récupéré finalement la bande dessinée et qui ont l'ont utilisée pour ramener, parce que là, subitement, on passait de thématiques plus urbaines à des thématiques plus agricoles, à l'émergence de personnages agricoles, à des reprises de romans du terroir, on pense à Séraphin, entre autres. Et avec une remise à l'avant, si on peut dire, d'une certaine autorité du clergé qui figurait parmi les valeurs de cette bande dessinée québécoise de cette époque-là.
Oui. Dès les années 30, il y avait eu l'association des voyageurs, l'Association catholique des voyageurs de commerce qui avait commandité des feuilletons, des adaptations d'un roman du terroir qui étaient publiés dans les journaux qui étaient un peu plus de droite, plus religieux comme Le Devoir, Le Droit, l'Action catholique à Québec. Donc, c'était une association catholique qui commanditait des adaptations de romans du terroir, des romans de Lionel Groulx. L'appel de la race au Cap Blomidon, etc. Il y en a eu à peu près 7-8 comme ça. Et c'était traité à la façon des histoires en images françaises. C'était un peu rétrograde par rapport à la bande dessinée qui se faisait aux États-Unis, qui avait des ballons, des phylactères. Et donc, on revenait avec le pavé de texte sous l'image, parce que ça, c'était plus sain, c'était plus de la vraie lecture, tandis que la bande dessinée avec des bulles, c'était facile, c'était pour les enfants. Donc on reprenait ces romans-là du terroir pour, finalement, là, c'était un modèle qui était acceptable parce que ça reprenait les valeurs dont je parlais tantôt, de retour à la terre, parce que la plupart de ces romans-là parlent de ça. Dans L'appel de la race, on met en garde les mariages mixtes, donc anglophones et francophones, ça ne doit pas se mêler. Dans Au Cap Blomidon, c'est un méchant anglais qui a saisi une terre d'un cultivateur canadien-français et qui la laisse en friche et qui va engager un contremaître qui est un brave canadien-français, mais qui est en fait l'héritier de la terre qui va lui redonner toute sa valeur. Donc, on revient à ces valeurs-là qui étaient justement qui faisaient que, dès le début du siècle, on vilipendait les bandes dessinées parues dans les journaux, le Citrouillard, la Débauche, Timothée. Et donc, on remettait ces valeurs-là de l'avant. Et après la guerre, à l'époque du Plessis, c'était avec la revue Héros, publiée par les éditions Fidès, qui le disait carrément. Parce que là, la bande dessinée, malgré que le clergé s'y opposait, la bande dessinée était extrêmement populaire. Les comics américains se vendaient ici et tout ça. Et Héros, dans son éditorial, dans le deuxième numéro, mentionnait que c'était combattre le feu par le feu. Les jeunes veulent lire de la bande dessinée, on va leur en donner, mais on va leur en donner de la bande dessinée saine. Donc, on mettait la vie de saint, et c'était des traductions de comics américains, en fait, au début. Et à partir des années 50, là, on a eu des BD faites au Québec, dans Héros, et souvent, là, c'était prétexte pour montrer des lieux religieux, pour provoquer les vocations chez les jeunes pour qu'ils deviennent soit sœurs, soit prêtres.
OK. Et encore là, à la page, un peu avec la mentalité qui prévalait à l'époque aussi, oui, au bout du compte. Donc, c'est vraiment deux périodes où la BD n'était peut-être pas à la page de ce qui se faisait en bande dessinée à l'échelle internationale, en Europe, ou aux États-Unis, pas, notamment en termes de style, en termes de ton, en termes, mm-hmm, de sujets traités. Mais pour la mentalité québécoise, là, on a quand même eu...
Oui, ça allait avec la mentalité du Québec, avec ce qui se passait ici. C'était la grande noirceur. Je veux dire, quand il y a eu les premières bandes dessinées au début du siècle, on était en plein dans ce qui se faisait, là. Le premier qui a fait les aventures de Timothée, qui est la première bande dessinée moderne, là, avec des ballons et tout ça en couleur, publié dans les journaux. C'est Albéric Bourgeois qui a fait ça en 1904. Mais Bourgeois avait travaillé dans un journal américain avant, où il faisait des bandes dessinées. Et c'est le rédacteur en chef de La Patrie, Israël Tarte, qui était allé le chercher à Boston, qui lui avait demandé de venir à Montréal parce qu'il voulait moderniser son journal. C'était un peu aussi ça qui faisait que La Patrie, la presse, était rejetée, c'est que c'est les premiers journaux modernes à avoir des pages féminines, des chroniques ouvrières, parler de sport, parler de faits divers. C'est qu'autrefois, on ne parlait pas de ça, c'était des journaux qui étaient régis par des idéologies différentes, conservatrices, catholiques, libérales, et ça ne parlait que de ça. Et là, sont arrivés des journaux plus généralistes, La Presse, La Patrie, qui parlaient de différents sujets, qui vivaient par la publicité et non pas par les subventions des partis politiques ou du clergé. Donc, Israël Tarte a voulu moderniser son journal, en faire un journal à l'américaine, ce qui a été rejeté par à peu près tous les autres journaux qui parlaient de la patrie de la presse comme étant des journaux jaunes, ville et tout ça. Et donc, quand Bourgeois a commencé à faire de la BD, ce qu'il faisait, et ce que ceux qui ont suivi à peu près en même temps que lui, Théophile Busnel, René-Charles Béliveau, Joseph Charlebois, ce que ces gens-là faisaient était à la fine pointe de ce qui se faisait là, aux États-Unis. Ils étaient même en avance par rapport à ce qui se faisait en Europe, parce qu'ici, on utilisait le phylactère. Nos personnages parlaient avec des phylactères, tandis qu'en France, il a fallu attendre pour que ce soit sur une base régulière. Je ne veux pas parler de petites exceptions, mais il a fallu attendre 1925 avec Zygépus en France. Et en Belgique, la première bande dessinée avec phylactère, c'était Les Aventures de Tintin en 1929. Nous, on faisait ça ici à partir de 1904.
C'est ce qui fait que quand on regarde justement BDQ, on voit qu'il y a une grosse section justement qui est consacrée à la période, j'ai l'impression, un peu 1904-1905 jusqu'à 1909, où on sent qu'il y a eu une effervescence justement de la production BD québécoise, amenée par Albéric Bourgeois, amenée par la volonté d'un côté de la patrie, d'amener la bande dessinée dans ses pages, la presse qui a suivi aussi, puis les deux qui se relançaient peut-être un peu. Mm-hmm, il y a eu beaucoup de personnages, beaucoup de galons d'essai, mm-hmm. Il y avait de la revue satirique autour de ça aussi.
Oui.
Et des fois, quand on en parle avec le recul, et je pense que tu fais l'observation dans l'ouvrage, justement, on aurait l'impression que ça a duré une décennie et plus, mais ça a duré 5 ans. Ouais. Mais 5 ans vraiment intense.
Très intense. Tu dis,
le Québec était à l'avant-garde en matière de BD.
Tout à fait. Oui, le Québec était à l'avant-garde à ce moment-là. Ça a duré 5 ans. Il y a eu au-dessus de 600 pages de bande dessinée. Ce qui est malheureux, c'est que à peu près personne ne les voit, ces bandes dessinées-là, parce que il n'y a pas d'album qui les a repris. Ces bandes dessinées-là sont sombrées dans l'oubli. C'est pas comme. Puis les personnages n'ont pas été repris, n'ont pas vécu longtemps. Ça a été 5 ans seulement. Il n'y a pas eu d'album. Les bandes ne sortaient pas des journaux locaux. Il n'y avait pas de comme aux États-Unis, un syndicate qui fait qu'une bande va paraître dans un grand journal de chacune des villes, de chacun des États. Ici, ce n'était pas ça. Ce qui paraissait dans la patrie, restait dans la patrie. Ce qui paraissait dans la presse, restait dans la presse. Fait qu'on ne le retrouvait pas dans les journaux de Québec, de Trois-Rivières, de Sherbrooke. Ça restait local. Quoique la réputation des personnages est sortie, puisqu'il y a eu, comme je disais, une campagne qui n'était pas seulement que montréalaise, c'était dans les journaux de partout à travers la province là, que les gens étaient déchaînés contre les bandes dessinées. Mais c'est dommage que ces bandes dessinées-là soient oubliées aujourd'hui. On peut seulement que les voir en noir et blanc dans les microfilms de la Bibliothèque nationale. J'ai essayé d'en avoir des reproductions en couleur. Je veux les faire connaître, ces bandes dessinées-là. C'est quand même quelque chose. Ce sont les premières bandes dessinées en français, de langue française. Les bandes dessinées modernes avec des phylactères, c'est les toutes premières et personne ne peut les voir dans toute leur splendeur, c'est-à-dire en 4 couleurs. On peut seulement voir des reproductions en noir et blanc de qualité moyenne. Et plus que moyenne souvent, selon les couleurs. Certaines passent très mal en noir et blanc. C'est dommage parce que ça fait partie du patrimoine québécois, ça fait même partie du patrimoine de la francophonie. Ce sont les premières bandes dessinées à bulles en français et elles dorment dans des vieux journaux. Dans le fond, et la Bibliothèque nationale ne veut pas en faire de reproduction. Ils ne veulent pas toucher à ces vieux journaux-là parce qu'ils sont trop fragiles. Ils ne veulent donc pas. Donc, on se demande à quoi ça sert de les garder s'ils ne veulent pas les ouvrir pour ne serait-ce qu'en faire une photographie qui servirait à faire connaître ces bandes dessinées-là. Au lieu de ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais j'aimerais trouver une bibliothèque public quelconque, que ce soit la bibliothèque de l'Assemblée nationale ou qui aurait ces journaux-là et qui accepterait d'en faire des reproductions des pages, c'était la page 13 du samedi, de 1904 à 1909 dans la patrie, ce serait important que ça soit publié en livre.
Surtout dans le contexte où ces personnages-là, les noms que tu as mentionnés, autant certains auteurs, mais des personnages, je parle de Timothée, on parle du père de la débauche, je veux dire, quelqu'un qui gravite un peu autour de la BD, qui s'est intéressé un tant soit peu à la BD québécoise, c'est des noms qu'on voit ressurgir oui. aussi. C'est des noms qui ont survécu, peut-être aussi un peu, j'imagine, en lien avec les questions de propriété intellectuelle qui étaient plus lousses à l'époque, entre guillemets. Les personnages étaient propriétés des journaux plus que propriétés des auteurs, d'une certaine ouais. façon, parce que Timothée, par exemple, est passé quand même d'un auteur à l'autre pendant au fil des années aussi.
Il y a eu deux auteurs. Ça, c'était une façon de faire qui vient des États-Unis. Il y avait eu un gros procès là, quand Dirks, Randolph Dirks, me semble. Bon, en tout cas, c'est Dirks, le créateur de Katzenjammer Kid, a voulu quitter les journaux de Hearst pour aller dans les journaux de Pulitzer avec ses personnages. Hearst a fait un procès, a gagné le droit de continuer la série dans ses journaux, et l'autre a gagné le droit de reproduire ces personnages, mais sous un autre nom dans l'autre journal. Fait qu'il y a eu deux séries en même temps, mais ça a lancé la tradition que le journal est propriétaire du personnage. Et donc, c'est ça. Albéric Bourgeois a créé Timothée dans La Patrie. Joseph Charlebois, en même temps, faisait La Débauche dans La Presse.
Puis il se répondait des fois aussi, d'ailleurs. Oui. Je voyais notamment, à un moment donné, une semaine, il parle du temps des sucres dans un. L'autre semaine, oui. c'est l'autre qui va au sucre.
C'est la même activité où il allait au cirque. Le cirque était à Montréal cette semaine-là. Fait que les deux auteurs envoyaient leurs personnages à Montréal. Au cirque, excusez. Mais La Débauche, c'est pas Charlebois qui l'avait inventé, c'est Hector Berthelot dans son propre journal satirique, Le Canard, qui avait inventé ce personnage-là en 1877. Et puis, le personnage était connu. Fait que quand la presse a décidé de lancer une bande dessinée, ben, ils ont pris un personnage connu déjà connu du public pour lancer leur BD.
Puis à un moment donné, ils ont été chercher même carrément, donc Albéric Bourgeois en 1905, oui. qui est La Patrie l'a perdu,
il
passe à la presse, ils ont donné Timothée, puis Bourgeois, lui, a fait Toinon et Polype, si je ne me trompe pas.
C'est ça, il a commencé, il a fait quelques pages de La Débauche en remplacement de Charlebois qui a quitté, et ensuite il a créé ses propres séries, Zidore et rapidement Toinon et Polype, dans la même année. Pendant ce temps-là, c'est un jeune Français, un jeune Breton, Théophile Busnel, qui a repris Timothée dans La Patrie. Le créateur des Citrouillards a quitté l'année d'après. C'était un certain Bisson qui a repris la série. Bisson a quitté après quelques mois et c'est Busnel qui faisait les deux séries à ce moment-là. Fait que donc, les auteurs s'échangeaient leurs séries. On dit même que Busnel était de santé fragile. Il était tuberculeux. Il est mort très jeune, d'ailleurs. Et que parfois, quand il était trop malade, Albéric Bourgeois, qui travaillait pour le journal concurrent, allait chez lui et lui dessinait sa page de Timothée pour lui donner un coup de main. Fait que c'était de jeunes artistes qui se fréquentaient, qui se tenaient ensemble, qui fréquentaient les mêmes ateliers. Et quand Busnel est retourné en France, Bourgeois l'a accompagné sur le bateau, là, même s'il travaillait pour l'autre journal. Fait que c'était une bande de copains, de jeunes hommes qui travaillaient, qui faisaient des BD et qui devaient avoir une certaine émulation entre eux.
Et de là, dans le fond, là, je rappelle, on est beaucoup sur 1909, mm-hmm. 1905, à peu près, donc vraiment le tournant du siècle. Et rapidement, en fait, j'ai l'impression, bon, 1909, 1919, selon les périodes, il y a vraiment plusieurs creux de vague et ouais. ça creuse après ça de plus en plus. On a l'impression ouais. qu'après ces cinq années folles-là, la bande dessinée québécoise tombe un peu dans l'oubli. Elle tombe un peu dans l'oubli en lien avec des décisions éditoriales qui ont été prises dans les journaux, dans le fond, La Presse et La Patrie, qui tranquillement remplacent les comics québécois et les remplacent par, entre autres, des syndicates américains.
Oui, pas tout de suite, c'est ça. C'est une chose.
Ça se fait progressivement, dans le fond.
Oui, bien, c'est que les syndicats ont commencé en 1915. Fait que c'est à partir de 1909 qu'ils ont arrêté d'avoir des bandes dessinées québécoises. Il y a eu quelques séries américaines qui ont duré pas longtemps, peut-être un an, et qui ont été remplacées par des histoires en images françaises par la suite. Et ça va durer jusqu'au début des années 20, et c'est là qu'il va y avoir une arrivée massive des bandes dessinées américaines dans les journaux québécois, mais là, vraiment massive. Et c'est aussi à ce moment-là que certains journaux, je pense notamment au Soleil, l'Action catholique, qui ont commencé à mettre de la photographie parce qu'ils s'opposaient à ça. Tout ce qui était image, là, il n'y en avait pas dans les journaux. C'est donc, à partir des années 20, devant la popularité de la presse, de la patrie, qui était très colorée, qui avait des photos, des suppléments de couleurs la fin de semaine, c'est là que les autres journaux vont suivre le mouvement et vont publier des photos et de la bande dessinée dans leur page. Et à ce moment-là, il n'y a plus de Québécois qui en faisaient pratiquement. Alors, on a fait venir des bandes dessinées américaines, et c'est ça, c'est que les journaux américains, les syndicates offraient pas seulement que les bandes dessinées, hein. On dit souvent les syndicates américains, mais c'était différentes choses, c'était des pages de jeux, c'était des chroniques sportives, c'était des reportages photos sur des vedettes et tout ça. Donc, c'était tout un ensemble d'items que le syndicate pouvait vendre là, aux journaux.
Puis on se disait, dans le fond, ben, j'ai acheté pour un ensemble d'éléments, alors ben, pourquoi pas intégrer la BD, je vais sauver un peu là-dessus. Donc...
C'est ça. C'était vraiment pas cher. Là. Ça coûtait moins cher, encore aujourd'hui, c'est le même principe du syndicate, ça coûte moins cher d'acheter une semaine de Garfield que d'acheter une bande dessinée québécoise pour une bande pour une journée, là.
Et on imagine en ce sens, dans le fond, l'impact que cette décision éditoriale-là, à partir des années, bon, tu disais 1915-1920, au-delà, donc, eu sur le développement de la bande dessinée québécoise, parce que là, subitement, on sort la BD des journaux à grand tirage de façon quand même assez importante, et en parallèle, ben, dans le fond, il y a une réappropriation, on en a parlé tout à l'heure, par le mouvement critique de la BD, donc de la bande dessinée, mais avec justement un certain recul vers le genre plus acceptable, donc on en parlait aussi, donc vers des BD avec texte en dessous.
Oui, sous l'image.
Et donc là, tranquillement, ça continue, mais peut-être un peu moins sous le feu des projecteurs qu'elle avait au départ, mais sous le feu d'autres projecteurs. Mais tout de même, dans une période où il y a des figures emblématiques de la bande dessinée qui ont quand même réussi à émerger, qu'on pense à Albert Chartier, par exemple.
Oui, mais ça, c'était des décisions éditoriales. C'était vraiment, dans le cas de Chartier, qui a commencé Onésime en 1943, c'est le bulletin des agriculteurs qui a décidé, nous, on va passer une bande dessinée québécoise. Et ils ont passé une commande, parce qu'ils passaient de la bande dessinée américaine avant, là, les Cats and Jammer Kid étaient publiés dans le bulletin des agriculteurs. Et la rédaction a décidé, la direction du journal a décidé que c'était une bande dessinée québécoise qu'ils voulaient. Et ils ont commandé à Chartier, fais-nous une bande dessinée qu'on peut passer dans notre journal. Fait que Chartier s'est dit, bon, ben, c'est un journal qui s'adresse aux agriculteurs. Je vais créer un personnage de campagnard. Donc, quelqu'un qui vit dans ce milieu-là, et il a créé Onésime, qui est un retraité qui vit au Lac Noir, je pense. Ben, en tout cas, Chartier, c'est là que lui habitait. Je ne me souviens pas si Onésime habitait là aussi. Mais donc, mais on voit souvent, là, quand Onésime s'en va dans la grande ville, ben, c'est à Joliette. C'est ça, la grande ville pour lui, c'est Joliette. Il vient parfois à Montréal, mais sinon, c'est Joliette. Fait que, donc, c'est un habitant de la Naudière. C'est là qu'il a installé son personnage. Et donc, c'était une volonté éditoriale. Et à peu près à la même époque, quelques années plus tard, après la guerre, les bandes dessinées d'aventure américaines pullulaient dans les journaux québécois. C'est à partir de 1929 qu'il y a eu des bandes dessinées d'aventure. Avant ça, c'était seulement de la BD humoristique. En 29, il a commencé à avoir des bandes dessinées d'aventure américaines. Tarzan, Buck Rogers, c'est les premières bandes dessinées réalistes là, d'aventure. Et au Québec, c'est après la Deuxième Guerre mondiale que le Petit Journal, qui est un journal de Montréal, a décidé de publier des séries d'aventure faites par des auteurs québécois. Et on le précisait, là. Il y avait des articles pour annoncer, voici une bande dessinée québécoise. Là, c'était vraiment une mission, c'était volontaire, c'était pas...
on nous a fait un choix éditorial, dans le fond, ils décident de le faire, c'est un choix conscient qu'ils font.
C'est un choix, oui, exactement. Fait que, il y a eu une première histoire d'aventure qui était les trois copains qui se passaient dans les mers du Sud, mais le journal voulait quelque chose dans lequel les lecteurs se reconnaîtraient. Fait qu'ils ont commandé à un autre auteur une histoire qui se passerait à Montréal. Fait que là, c'était Raymond Rassette qui a créé le personnage de Jacques d'Iberville. Puis on a une aventure qui se déroule dans les rues de Montréal où on reconnaît plusieurs lieux de Montréal et des environs. On voit même l'hôtel de ville de Terrebonne dans une case. Là, parce que ça ensuite, c'est une autre série qui a suivi celle-là, qui était Julien Gagnon par Normand Hudon, le caricaturiste qui était très populaire par la suite, qui animait des émissions de télévision, tout ça. Et dans son jeune, à ses débuts, avait fait une bande dessinée qui était non seulement qui se déroulait à Montréal, mais qui abordait le contexte de l'époque, c'est-à-dire la chasse aux espions communistes. Parce que là, on était en pleine guerre froide, au tournant des années 50, et donc on voyait des espions communistes partout, et donc le héros, Julien Gagnon, pourchassait un super espion russe dans les rues de Montréal. Donc, mais ça, c'était une volonté là, de la direction du journal, là, de faire ce genre de bande dessinée-là.
Et il y avait donc, de ce que j'en comprends, tu sais, on a parlé tantôt un peu de la tangente un peu religieuse, catholique,
qui était en même temps.
Terroir, qui était en même temps, mais il y avait justement ce pan-là de BD d'aventure qui se développait avec les quelques noms et d'autres que tu mentionnais, parce qu'il y avait un appétit, dans le fond, dans l'après-guerre, l'imaginaire était fort, était vif, donc on avait envie de ça. Et donc l'un n'a pas empêché l'autre de se développer, finalement.
Non, c'était deux sphères. Ce qui paraissait dans les journaux ne s'adressait pas nécessairement aux enfants. Ça a tout le temps été comme ça aussi. Les bandes dessinées américaines qui paraissent dans les journaux ne s'adressent pas qu'aux enfants. Peanuts, c'est pas seulement pour les enfants, là, c'est les adultes qui le lisaient aussi. Rip Kirby, Flash Gordon, c'était pour les adultes autant, c'était pour tout le monde. Mais d'un autre côté, il y avait Héros, François, Claire, qui étaient des périodiques qui s'adressaient aux écoliers, aux étudiants. Et là, c'était le clergé qui contrôlait ces publications-là, et c'est là-dedans que le clergé faisait sa propagande. Il la faisait moins dans les journaux, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Les journaux n'étaient pas sous le contrôle du clergé, sauf peut-être l'Action catholique, qui tout le temps était un journal très catholique, justement. Mais donc, c'était dans les publications jeunesse que le clergé là, avait la main. Parce qu'il n'y avait pas de ministère de l'Éducation. Avant 1968, il n'y avait pas de ministère de l'Éducation. Au Québec, le clergé s'y opposait formellement. C'était le clergé qui dispensait l'éducation aux jeunes. C'est eux qui avaient la mainmise sur l'éducation, qui décidaient qu'est-ce que les jeunes lisaient, ce que les jeunes apprenaient. C'était eux. Et donc, avec ces publications-là, ils propageaient leur idéologie.
Et ce contexte-là met aussi en éclairage, parce qu'il y a des ovnis qui apparaissent aussi dans la BD québécoise en termes d'auteurs ou d'autrices, parce que dans le fond, dans les périodes, et là, on est dans l'après-1929, mais j'imagine que c'est valide aussi pour l'avant, le discours féminin n'est pas tant présent non plus en dehors de protagonistes secondaires, et hormis peut-être justement des figures comme Yvette Lapointe avec Les Petits Espiègles, qui, elle, va avoir un discours qui va être avant-gardiste, qui va être féministe, et là, on est dans les années 30, là, on n'est pas dans dans une époque où ce discours-là est prévalent et au contraire, dans un contexte où le clergé tranquillement va chercher le médium pour un certain public aussi.
Oui, exactement. Ouais. Fait que ce qui paraissait dans les journaux a toujours un peu échappé au clergé. Ce que Yvette Lapointe faisait, c'est quand même assez gentil, mais c'est un discours féministe qui passerait pas tellement bien là, dans un journal plus réactionnaire, mettons, là, quand elle dit que le sort des femmes est très malheureux quand tu as le choix entre être vieille fille ou épouser un abruti. C'est pas ce que les valeurs qui étaient véhiculées par le clergé, parce que justement, ce qu'on apprenait, je me souviens, les revues, François, Claire, tout ça, on explique les métiers parce que ça s'adresse aux écoliers, les métiers qu'ils peuvent faire plus tard. Et dans les premières années, la première job pour les femmes, c'était soit devenir mère de famille ou religieuse. Et ensuite, d'autres choses. quand on arrive plus à la Révolution tranquille, Claire et François, ces deux publications-là, publiées par la GIEC, étaient quand même un petit peu là, dans le courant de la Révolution tranquille. Parce que, comme Claire proposait dans son numéro annuel sur les métiers, proposait aux jeunes filles de devenir hôtesse de l'air ou monteuse de cinéma ou pharmacienne, on leur proposait autre chose que mère de famille ou sœur. Fait que c'était déjà autre chose là. Fait qu'on était au début de la Révolution tranquille et ça commençait à souffler un peu sur les publications là, catholiques de l'époque.
Et je vois d'anecdote en anecdote dans ce livre-là qui est, enfin, je le réitère, là, un bilan assez extrêmement riche là. Et entre autres, ça m'a surpris, je n'avais jamais pensé, dans le fond, les lois. Les législations de la guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, qui interdisaient les importations de produits non essentiels, eh bien, ouais. Ça incluait, dans le fond, la bande dessinée et le fait, justement, qu'on ait pu eu accès pendant quelques années à ces publications-là, ça a permis à une certaine scène, entre autres dans l'édition anglophone, surtout à Montréal, de se développer.
Oui, oui. Parce que quand cette loi-là interdisait l'importation de biens non essentiels, c'était principalement les comics, pas les bandes de journaux. Ça, il n'y a pas eu d'interruption là, pendant la guerre. Prince Vaillant, Flash Gordon ont continué à apparaître dans les journaux. Par contre, les comic books n'étaient plus disponibles au Canada. Et ça a permis l'émergence de cinq maisons, principalement de cinq maisons d'édition anglo-canadiennes, dont une à Montréal, Educational Project, qui est la première maison d'édition anglophone là, au Québec, et qui publiait Canadian Heroes. Et chacune de ces publications-là, des autres maisons, là, avaient leur propre super-héros pour compenser justement la perte des super-héros américains. Et ces maisons d'édition-là ont vécu le temps de la guerre, principalement. C'était des revues qui étaient en noir et blanc, donc qu'on ne pouvait pas concurrencer véritablement les comics américains. Fait que, donc, pendant la période de guerre, ça a été florissant. Il y a eu plusieurs titres publiés, autant à Toronto qu'à Vancouver. Dès que la guerre s'est terminée, et que les bandes dessinées américaines sont revenues. Ils ont complètement balayé là, cette industrie naissante-là. Il faut attendre jusque dans les années 80 pour voir réapparaître une maison d'édition anglophone à Montréal.
Puis tu parlais tantôt, Michel Viau, de journaux, de BD, en fait, héros, puis les produits des éditions Fidesz aussi associés, la BD d'aventure à la québécoise un peu qui se développait, mais bon, si on saute un peu l'ère Duplessis, après Duplessis, dans le fond, il y a eu une ouverture aussi plus importante au marché franco-belge, donc qui est arrivée de manière beaucoup plus massive, et là, oups, on avait des Spirou, des Tintin, des Mickey qui essayaient de s'implanter, on avait Astérix qui essayait de se développer ici, et cette arrivée-là a mis un peu à terre ce qui restait, si on peut dire, de production québécoise.
Ça a eu deux effets. Ça a mis à terre ce qu'il y avait, c'est-à-dire que l'arrivée dans les kiosques à journaux de Spirou, de Pilote et de Tintin a balayé les publications québécoises, qui ne faisaient vraiment pas le poids. Là. Héros, Claire, François, ça ne faisait vraiment pas le poids, ni en qualité du contenu, ni du contenant. Ça ne faisait pas le poids face à ces publications-là. Toutefois, ça l'a permis à la bande dessinée de devenir encore plus populaire et ça l'a créé des vocations chez les jeunes auteurs. Les auteurs qui vont venir par la suite, là, ceux du printemps québécois, vont être super influencés par par Astérix, par Pilote. Pilote va être leur modèle, Charlie va être leur modèle, l'underground américain aussi, mais ça va créer des vocations et surtout, on dit souvent qu'en France, que Astérix a sorti la bande dessinée du ghetto enfantin, mais c'est la même chose ici. Pendant des années, le clergé nous a dit que la BD était mauvaise et tout ça, que c'était pas bon, que c'était pour les enfants ou pour les adultes débiles. Mais le succès d'Astérix, le succès qui a été connu en France, va avoir le même effet ici au Québec, c'est que les gens vont se mettre à lire de la bande dessinée grâce à Astérix. C'est Astérix, comme en France, qui au Québec va faire que la bande dessinée va gagner une certaine respectabilité. Dans les années 60, On a commencé à avoir des articles dans Le Devoir qui parlaient de la bande dessinée, qui en parlaient en bien, ce qui faisait changement. Il va y avoir même des émissions à Radio-Canada qui vont débattre sur la bande dessinée et tout ça. Ça vient de Astérix, il faut le dire, ça vient de cette bande dessinée-là qui, on le sait, s'adressait autant aux enfants qu'aux adultes par la double lecture qu'on pouvait faire, par l'humour de Goscinny. Et donc, Astérix va faire que la bande dessinée au Québec va gagner une respectabilité. Et
c'est là qu'on prépare un peu le terrain, comme tu dis, vers les années 68. C'est parce ça. Que pendant toute cette période-là de bouleversement où, d'un point de vue culturel, dans le fond, la BD n'est pas hyper présente, la BD mm-hmm. québécoise à tout le moins, mais on prépare le terrain et c'est pas pour rien que ce premier tome-là, tu choisis de le finir en 1968, ouais. Parce qu'il va y avoir un point de bascule. On parlait d'un âge d'or de la BD québécoise de 1905-1909. Eh bien, on prépare ce que tu disais tantôt, c'est le printemps de la BD québécoise. Ouais, donc là, ça devient un moment charnière qui a lancé la BD moderne, la BD actuelle aussi.
Oui. C'est cette période-là qui va être traitée dans le deuxième livre, va jusqu'en 79, qui est l'arrivée de Crowe. Et en octobre 79, fin de l'année. Et Crowe va être le début d'une certaine industrie de la bande dessinée québécoise. Ça va être les premiers auteurs professionnels payés là, pour faire de la bande dessinée. C'est sûr que ceux qui publiaient dans les journaux étaient payés, mais étaient payés là, vraiment pas grand-chose.
Donc c'est pas pour rien que le tome se termine là. Évidemment, on aura l'occasion de revenir sur cette deuxième période-là qui est extrêmement faste, puisqu'elle représente un autre 400 pages.
400 pages, juste pour une période de 10 ans. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup dans tous les domaines. Ce printemps-là, vraiment, là, la bande dessinée a essayé. Il y a eu des tentatives là, non-stop là, dans tous les domaines, que ce soit les publications, les albums, les journaux, les premières manifestations, les premières expositions, les premiers salons, les premiers festivals de bande dessinée. Fait que c'était tout dans cette période de 10 ans-là là, qui va être abordée plus tard.
Parce qu'après ça, sinon on recule, ben on a couvert dans les premiers éléments, justement la première BD avec Phylactère dans des grands journaux, les premières séries, et même à la limite, si on revient même carrément à l'origine, la première BD avec Phylactère, là, 1792, à tous les électeurs. Ouais, donc c'est la première était ici finalement
c'est
aussi.
Ça. C'est ça. Mais ça, c'est un cas qui est, tu sais, c'est un exemple qui est resté seul, qui est isolé. C'est une BD, ça n'a pas provoqué une vague, il n'y en a pas eu plein après, là. Tu sais, c'est un élément unique, il y en a peut-être eu une ou deux de temps en temps, c'était assez rare. Et ça, c'était encore selon la tradition anglo-saxonne. Parce que les Anglais, les Britanniques le faisaient, ils faisaient des caricatures politiques sur des feuillets qui s'étaient parfois insérés dans des journaux. C'était vendu avec le journal, vous aviez la caricature en couleur qui était insérée dedans. Quelqu'un voulait passer un message politique et donc le faisait sous forme de caricature. Et les Anglais intégraient le phylactère déjà dans leurs caricatures. Ça faisait longtemps là, qu'ils le faisaient. D'ailleurs, la toute première caricature exécutée en Nouvelle-France, on ne parle même pas encore du Québec ou du Canada, c'est en Nouvelle-France, c'est pendant la guerre de conquête. C'est le marquis de Townsend qui s'amusait à caricaturer le général Wolfe, qui était son supérieur. Il faisait des caricatures de Wolfe pour se moquer de son chef parce qu'il le méprisait. Et il y avait des phylactères dans ces caricatures-là, des phylactères en français en plus, parce que c'était une langue noble à l'époque. Fait que donc, Wolfe s'exprime en français dans les caricatures que Townsend faisait de lui. Ces caricatures-là sont au musée McCord à Montréal. Ça n'a pas été publié à l'époque. C'était vraiment pour s'amuser au feu de camp. Le soir, Townsend s'amusait à rire de son chef en le caricaturant là, dans différentes situations. Et d'ailleurs, quand Wolfe est mort pendant la bataille des plaines d'Abraham, c'est Townsend qui l'a remplacé comme chef de l'armée. Fait que ce chef-là de l'armée était aussi caricaturiste et il se moquait.
Donc, ça montre un peu l'importance de ce médium-là pour les Britanniques et ça explique en partie pourquoi, dans le fond, on commence à parler de bande dessinée de caricature au Québec à partir de cette période-là. Mm-hmm. Ça et le fait qu'avant, en Nouvelle-France, il y avait de toute façon une loi qui interdisait le développement d'imprimerie.
Il n'y avait pas d'imprimerie. Non, c'est ça. Il n'y en avait pas à ce moment-là. comme je l'ai dit dans le bouquin, c'est Benjamin Franklin qui a convaincu un Marseillais qui était installé aux futurs États-Unis de venir s'installer en Nouvelle-France. Je ne sais pas si on parlait encore de Nouvelle-France à ce moment-là, parce qu'on était conquis.
1776.
C'est ça, de venir s'installer alors qu'eux préparaient la Révolution américaine. Il a convaincu ce Marseillais-là, Fleury-Méplet, de venir s'installer, je crois que c'était à Québec, non, à Montréal, de venir s'installer à Montréal pour pouvoir justement imprimer des pamphlets, pour faire la promotion de leurs idées révolutionnaires, de se débarrasser des Anglais, parce que les Américains, les révolutionnaires américains, les indépendantistes, souhaitaient que les Canadiens français se joignent à eux pour chasser les Anglais du continent.
Et c'est pour ça qu'il y a eu une prolifération, ce que tu mentionnes dans l'ouvrage, justement, qu'il y a eu quoi, à peu près 70 périodiques satiriques dans la première moitié là, du 19e siècle.
Ouais.
Des fois, c'était juste un épisode, mais il y en a eu beaucoup aussi.
Oui, il y en a eu plein. C'était les gens diffusaient leurs idées, c'était satirique, mais c'était pour se moquer de positions politiques d'un autre journal. Fait que des fois, les journaux se répondaient même dans leur titre. Il y en a un qui s'appelait la scie, l'autre s'appelait la lime. Tu sais, la lime va couper les dents de la scie. Donc, on se répondait comme ça. C'était des journaux souvent qui avaient une ou deux caricatures, pas plus. Et c'était des quatre pages. Un simple feuillet plié en deux, c'était quatre pages. Ça pouvait durer le temps d'une élection, ça pouvait durer quelques années. Il y en a le canard.
C'est là que la débauche est née, donc c'est un peu la quadrature. On revient à Berthelot et son père de la débauche.
Et son père de la débauche, le Berthelot qui a fait son journal, qui l'a vendu un an plus tard à quelqu'un d'autre, à Honoré Beaugrand, qui a été propriétaire de la Patrie. Il lui vend son canard et lance la semaine d'après le vrai canard. Pour répondre, fait qu'il y avait le canard, le vrai canard, mais là, les gens confondaient les deux, fait qu'il a changé le nom, c'est devenu le grognard. Ça a duré quelques temps, il l'a arrêté, il est reparti sous le nom du violon, etc. Fait que c'était des journaux qui étaient parfois très, très éphémères. Ça pouvait être une publication, ça pouvait durer quelques années. Et c'était des journaux qui se moquaient de quelque chose, qui se moquait d'un parti politique, des idées véhiculées par ce parti-là, qui se moquait d'idéologie. Donc, c'était des journaux qui étaient très, très influencés, là, qui étaient très politisés.
Et évidemment, à travers ce dialogue-là, Michel, on a lancé différentes anecdotes. Je pense que c'est une chronologie assez large, si on peut dire, de la bande dessinée québécoise. Et évidemment, on va avec force de détail là-dedans. Donc, il y a ce côté anecdotique-là, il y a des inventaires, il y a des reproductions. Donc, je le redis, c'est un ouvrage qui est extrêmement fouillé, extrêmement complet. Donc, si vous avez envie de creuser à peu près tout ce qu'on a dit dans la dernière heure, bien, je pense que tout est là. Et tu le disais, dans le fond, ça représente pour toi ces 25 ans de travail, de documentation, j'imagine. Du côté des archives de façon autonome, les gens qui t'envoient peut-être aussi des trucs qu'ils découvrent chez eux. Dans le fond, c'est littéralement de tisser le fil historique de la BD québécoise. Exact. C'est ça que tu as fait avec cet ouvrage-là.
Oui. Ben c'est comme, pour moi, c'est comme une première pierre. J'espère que les gens vont aller plus loin. J'ai mis tout ce que je savais et à chaque fois que je sors une édition, que ce soit le répertoire ou il y a des gens qui me contactent. Hey, t'as oublié telle chose. Ah. Ben, c'est ça. C'est à force d'en rajouter qu'on va finir par avoir un vrai portrait de la bande dessinée. Et tu disais que c'était abondamment illustré. Et ça, c'est volontaire. Je trouve que c'est important de montrer ces bandes dessinées-là parce que, comme je disais, on ne les connaît pas. Ça dort dans les archives. Et ce n'est pas réédité, ce n'est pas diffusé. Alors, c'est bien beau d'en parler. C'est bien beau de parler de Timothée. Tout le monde, ah oui, Timothée, mais il faut le montrer, Timothée. Il faut que les gens voient c'est quoi. Alors, c'est pour ça que c'est très illustré, parce que je veux montrer la bande dessinée. C'est le but, c'est de montrer, voici ce qui s'est fait. C'est bien beau de savoir que ça existait, mais c'est le fun de le lire aussi puis de le voir.
Oui. En espérant inspirer aussi éventuellement des gens qui vont avoir envie d'éditer, qui vont avoir envie de faire aussi un travail de valorisation de leur côté pour continuer ça. Autant que, on le disait d'entrée de jeu, dans le fond, des chercheurs qui, eux, vont avoir envie de contextualiser, d'explorer, de comprendre, dans le fond, comment ça s'est développé.
Moi, je leur donne des pistes. Je leur dis, il y a eu ça à cette époque-là. Prenez-le puis faites ce que vous voulez, mais il y a ça. T'sais? C'est à d'autres à aller plus loin avec ça.
Et les pistes, je le rappelle, on les trouve donc dans cet ouvrage, donc premier tome, BDQ, Histoire de la bande dessinée au Québec, Les pionniers de la bulle, donc tome 1 des origines à 1968. Et Michel, j'ai l'impression qu'on va se reparler donc l'an prochain avec le tome 2 qui s'en vient, qui va faire donc de 68 à 79.
Et d'ici là,
ben, on a de quoi à se mettre sous la dent, et éventuellement le tome 3. Mm-hmm. Alors, à suivre. Et oui. Michel Viau, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Si. Alors, ben voilà, ce qui conclut cette édition de La Vie en BD, c'était Raymond Poirier au micro. Je vous rappelle que l'ensemble de nos émissions sont disponibles sur lavieenbd.com et je vous souhaite une excellente semaine.